Quelque part au Moyen-Orient, perdu dans les entrailles des terres et des sables, oublié de la plupart des hommes, dorment 3000 ans d'histoire. Bienvenue aux Antiquités Orientales, l'émission qui vous emmène sur les traces des grandes civilisations du Moyen-Orient, un jeudi par mois sur Radio Campus Paris 93.9 FM, à la découverte de l'histoire.
De civilisation prospère à fantasme de l'Occident, l'Égypte n'est pas morte. Enfin, pas tout à fait. Elle survit dans un coin de notre mémoire, sous la forme de momies, de pyramides et de malédictions, qui arborent nos récits d'aventure. Mais qui sont ceux qui ont dominé les sables du Nil pendant plus de 3000 ans? Comment les avons-nous découverts? Comment s'articulaient leur monde et leur quotidien? Et plus important encore, pourquoi êtes-vous en train d'écouter cette émission? Bienvenue dans la première étape de ce voyage à travers l'Orient ancien qui fait escale aujourd'hui en terre des pharaons.
Vous écoutez bien les Antiquités Orientales un jeudi par mois à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM à la découverte de l'histoire.
Si vous connaissez l'existence de la civilisation égyptienne, c'est en partie grâce à Louis-Napoléon Bonaparte. En 1798, Loulou lance une expédition en Égypte pour contrer l'avancée anglaise en Afrique. Cette expédition militaire est accompagnée d'une ribambelle de scientifiques chargés d'étudier l'Égypte sous tous les angles. Botanique, zoologique, géographique et bien entendu, historique. Il faut dire qu'avant cette expédition, les savants occidentaux ne connaissaient pas grand-chose de l'Égypte pharaonique. Le peu d'informations dont ils disposaient se trouvait dans les ouvrages des historiens et géographes de l'Antiquité classique. On peut citer en exemple Hérodote ou Strabon, dont les informations se sont avérées, pour couronner le tout, toutes inexactes, voire complètement fausses. Les premières fouilles d'Égypte débutent donc, et très tôt, une équipe d'archéologues fait une découverte surprenante. Une étrange pierre de couleur grise, sur laquelle subsistent trois écritures. On reconnaît d'abord le grec, au bas de la stèle, mais qu'en est-il des deux autres ? Les archéologues du site restent bouche bée devant cette foule d'animaux, de végétaux, d'objets et même d'humains qui leur évoquent tout, sauf quelque chose. C'est décidé, cette pierre est définitivement spéciale. On l'appellera du nom du village où on l'a trouvée, la pierre de Rosette. Quelques années plus tard, en 1808, un savant du nom d'Alexandre Lenoir publie un papier dans lequel il dit avoir déchiffré les hiéroglyphes. Cette publication est pour le moins controversée. Mais elle a le mérite d'attirer l'attention d'un certain Jean-François Champollion, Champollion qui connaît le grec, mais aussi le copte, une langue plus récente que celle des hiéroglyphes, mais qui a été parlée en Égypte. Alors, ni une ni deux, Champollion s'intéresse à cette mystérieuse écriture et devient vite obsédé par la pierre de Rosette. Il arrive parfaitement à lire la partie grecque et son postulat est de penser que les trois inscriptions disent toutes la même chose. Sinon, pourquoi employer trois écritures différentes? Commence alors un combat à plusieurs niveaux. Entre lui et les hiéroglyphes d'abord, mais aussi entre lui et les autres savants ensuite, dont les publications lui rappellent urgemment qu'il n'est pas le seul à plancher sur les hiéroglyphes. Le premier round voit Champollion essayer de faire correspondre le son d'une lettre grecque à un hiéroglyphe, en fonction de sa position dans l'inscription. Le premier hiéroglyphe correspondrait à la première lettre du texte grec, le deuxième à la deuxième lettre, etc. Cette méthode s'avère bien infructueuse. Les sons qu'obtient alors Champollion ne font pas sens du tout, et ce satané caillou résiste. Pendant ce temps, la concurrence n'a pas chômé. Plusieurs savants, tant français que britanniques, annoncent leur avancée dans le déchiffrement des hiéroglyphes. Rosette 1, concurrence 1, Champollion 0. Champollion ne désespère pas. À vrai dire, il n'est pas seul. Son coach, son entraîneur, son mentor n'est autre que son grand frère Jacques-Joseph Champollion. Lui-même archéologue, il conseille très régulièrement son petit frère dans ses recherches. Et son rôle, dans la légende de Champollion, bien que méconnu, est d'une grande importance. Champollion se rappelle qu'un autre savant avant lui avait réussi à montrer que les hiéroglyphes, lorsqu'ils sont contenus dans un cadre ovale, appelé cartouche, sont des noms de pharaons. Or, ça tombe très bien, le nom d'un pharaon est donné dans la partie grecque de la pierre de Rosette. Impatient, Champollion trouve un cartouche dans la partie hiéroglyphique. Et en 1822, dans un dernier uppercut foudroyant, le savant français venait de mettre au tapis la première barrière qui verrouillait l'Égypte des pharaons aux yeux du monde. La pierre de Rosette avait cédé quand ces hiéroglyphes, eux, oubliés depuis 2000 ans, étaient revenus à la vie. La vie, en voilà une notion intrigante. D'où vient-elle? Comment a-t-elle été créée? Si vous pouviez demander à un Égyptien comment le monde a été fait, voici ce qu'il vous répondrait. Il y a fort, fort longtemps, régnaient les eaux primordiales, le Noun. Ce sont d'elles que Ré, le dieu qui créa tout, émergea... Geb, le dieu de la terre, voilà. Oui. Et Nout, la déesse du ciel, étaient unis, inséparables. Un jour, le dieu du vent les sépara. Et c'est encore pas ça, d'accord. Donc, en fait, oui, il faut que je vous explique. Les Égyptiens adorent multiplier les explications de l'origine et du fonctionnement du monde, même si les versions peuvent finir par se contredire. Alors, pour avoir une vision plus claire de l'Égypte, regardons ça sous un angle plus pragmatique, si vous le voulez bien. L'image la plus courante que l'on trouve en général sur l'Égypte est celle d'un pays plat, désertique, affublé de quelques pyramides et transpercé de bout en bout par le célèbre fleuve du Nil. Donnez un crayon à votre imagination parce qu'on va lui refaire le portrait à cette Égypte. La région que recouvre le pays est composée d'une variété assez étonnante de paysages. Au nord, le long de la Méditerranée, une étendue certes plate, mais remplie de plaines fertiles et de marécages où s'épanouit une flore luxuriante qui laisse place à un désert aride et montagneux au sud. L'est de l'Égypte est borné par une chaîne de montagnes et après elle, la mer Rouge. La faune égyptienne est très riche. Lions, gazelles, léopards, hyènes, hippopotames, crocodiles, chameaux, vautours, ibis, scorpions, scarabées, araignées, serpents, pour ne citer que les plus connus, sont présents dans les plaines d'Égypte. Vous comprendrez donc très bien que l'Égypte regorge de créatures, tant du monde marin que terrestre, voire désertique, tant de petits trucs tout mignons que de gros méchants pas beaux. Mais le plus important de tous les éléments du paysage égyptien, celui qui a profondément façonné la pensée, les mythes, le royaume, le calendrier de cette civilisation, j'ai nommé le Nil. Ce fleuve de 6650 km de long qui traverse le royaume égyptien pour se fractionner en un grand delta au nord avant de se jeter dans la Méditerranée. En Égypte, le Nil est d'abord celui qui donne la vie. Lors de ses grandes crues, il emporte avec lui une substance noire appelée limon qui fertilise les terres alentour. Les Égyptiens ont d'ailleurs appelé leur pays la Terre Noire en référence au limon qui leur était vital. Sans les crues du Nil, pas de nourriture, pas de nourriture, pas de population, pas de population.
Pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais.
Si le Nil permet la vie et l'expansion du monde égyptien, il est aussi celui qui donne la mort. Les mêmes crues qui fertilisent la terre détruisent tout sur leur passage, allant des cultures aux maisons, en passant par les installations des quais et même les personnes qui s'y trouvent. L'ambivalence du Nil, créateur et fossoyeur à la fois, transparaît même jusque dans l'urbanisme égyptien. Le Nil est frontière, physique, religieuse et symbolique, entre la vie et la mort. À l'ouest de lui se trouve le monde des morts, et à l'est, celui des vivants. C'est d'ailleurs d'après lui que les Égyptiens s'orientent, et pour eux, le nord est fixé à la source du Nil, ce qui a pour conséquence d'inverser ce que nous considérons, nous occidentaux, comme est et ouest. En Égypte, l'est est donc notre ouest, et inversement.
Vous écoutez bien les Antiquités orientales, un jeudi par mois à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM, à la découverte de l'histoire.
Nous avons vu quel était le monde, géographique et symbolique, des Égyptiens. Mais que sait-on d'eux à proprement parler ? Les historiens qui s'intéressent à l'histoire égyptienne ont eu la grande chance que le Nil ait conservé dans son limon un nombre astronomique de papyrus, qui permettent de reconstituer, pour certaines périodes, le quotidien d'une personne en Égypte. D'abord, je vais me permettre un petit disclaimer pour vous indiquer que la période pharaonique en Égypte s'étale sur près de 3000 ans. Sur 3 millénaires, la vie quotidienne du peuple égyptien a donc beaucoup changé. De ce fait, je ne pourrais pas, à mon grand regret, prendre le temps de détailler les évolutions des us et coutumes égyptiens sans risquer de mourir avant d'avoir terminé. C'est pourquoi j'ai décidé de vous présenter un tableau général, propice à vous donner un petit sentiment d'immersion dans la vie quotidienne des habitants du Nil. La population égyptienne se divise globalement en deux parties. D'un côté, les habitants des campagnes, et de l'autre, ceux des villes. La campagne égyptienne est principalement composée de villages regroupés sur les rives du Nil, et je vous propose d'aller en visiter un. Vous voici donc en plein cœur d'un village égyptien, avec ses petites maisons fabriquées en terre crue, matériaux immédiatement accessibles et peu chers, car fournis par le fleuve. Le jour se lève, et vous voyez les habitants sortir pour s'adonner à plusieurs activités. Dans les champs, les paysans cultivent le lin et l'orge. Le premier est utilisé pour fabriquer des vêtements, et le deuxième pour faire le pain et la bière, deux aliments indispensables de la vie égyptienne. Vous les voyez qui s'occupent aussi du bétail, principalement composé de moutons, de bœufs et de vaches, mais aussi de volailles. En plus d'être des biens de grande valeur à cause de leur viande, car oui, en Égypte, les animaux sont, comme chez nous, des biens, les bovidés servent aussi à la moisson. Les paysans les lavent, les soignent et les nourrissent. Vous continuez votre chemin vers les rives du Nil. Là-bas, on récolte les grandes tiges touffues du papyrus qui sera utilisé pour faire le support d'écriture que nous connaissons tous, mais pas seulement. On en fait aussi des embarcations pour pêcher. En parlant de pêche, en voilà un, de pêcheur. Hissé sur sa nef, il a tendu sur l'eau un filet dans lequel jaillissent une grande variété de poissons. Votre regard est maintenant attiré par un groupe d'hommes qui crient leur joie dans les bosquets qui bordent le fleuve. Ces chasseurs viennent d'abattre un hippopotame et un crocodile, et leur excitation n'est pas simplement due à la récompense qui les attend au marché, ils sont tout simplement heureux de s'être sortis vivants du combat contre leur proie. Vous arrivez en ville, ville qui se trouve être la capitale de ce que l'on appelle un nome, une division administrative du territoire égyptien, qui équivaut, en termes modernes, à une région. L'activité y est beaucoup plus intense qu'au village. En vous faufilant entre les habitations, vous remarquez l'impressionnant palais de l'administrateur, qui domine la ville avec ses blocs de calcaire peints de rouge et de bleu, ses jardins aux bassins couronnés de fleurs et ses colonnades qui grimpent jusqu'au ciel. La rue s'ouvre brusquement sur une grande place et vous comprenez que vous avez atteint le marché. Toutes les classes sociales et professions s'y mêlent. Les nobles marchands commercent avec les habitants pendant que la garde publique fait sa ronde habituelle devant les mendiants, suspendus à l'espoir que de leur ceinture tombe un quelconque objet de valeur. C'est aussi un lieu bruyant où les rapports de force entre les différentes classes sociales se mêlent aux odeurs d'épices, de poissons et de dattes fraîches. La place du marché rassemble des produits d'origine locale, mais aussi étrangère. Des fruits et légumes aux étoffes les plus fines, en passant par la poissonnerie, la boucherie, les bijoux ou encore tout un tas d'outils et d'armes, le marché est un lieu d'activité économique pour toute la société égyptienne. En dépassant le marché, vous vous retrouvez face au temple de la ville. A l'instar du palais, le temple est aussi un bâtiment conçu pour susciter l'admiration. Seulement, ce n'est pas uniquement la vôtre que ces décorations visent. Il est la demeure du dieu protecteur de la ville et de son entourage divin. C'est aussi là que vit l'entièreté du personnel de culte. En plus d'entretenir le temple, ce sont eux qui réveillent, lavent, habillent, nourrissent et abreuvent quotidiennement les statues des dieux, considérées comme des manifestations des divinités qu'ils représentent. Le temple est aussi le lieu de cérémonies religieuses qui structurent profondément le calendrier égyptien. Ces fêtes ne sont d'ailleurs pas que des événements religieux puisqu'elles sont tout autant politiques. Le grand prêtre, plus haute autorité religieuse de la région, y manifeste son pouvoir par l'abondance des offrandes et des cérémonies faites aux dieux. Il y a un dernier aspect de la société égyptienne dont j'aimerais brièvement parler, c'est celui du rôle qui tiennent les femmes. Sans grande surprise, la société égyptienne est une société où ce que l'on appelle aujourd'hui l'inégalité des sexes règne. Pour parler de la sphère royale d'abord, même si l'on trouve quelques pharaons dans l'histoire égyptienne, il faut indiquer qu'elles n'exerçaient le pouvoir que parce qu'elles étaient veuves ou sans mari. Mais leur relégation en second plan n'empêchait pas les femmes de la cour d'exercer une influence, principalement sur les souverains, puisque ces derniers pratiquaient la polygamie et possédaient donc un harem d'épouses avec sa hiérarchie. En fonction de leur place dans cette hiérarchie, les femmes pouvaient avoir plus ou moins d'influence dans les décisions politiques de la cour. De sorte que l'ascendance divine des pharaons ne se disperse pas, le pouvoir égyptien pratiquait très régulièrement l'inceste. Il était donc très commun de voir le pharaon épouser sa cousine, sa nièce, sa sœur ou même sa mère. La plus haute marche de la hiérarchie pour une femme n'est pas, comme on pourrait le penser, le statut de reine, mais celui de mère du roi. Elle représente la légitimité de son fils à régner et influence fortement sa politique. Certaines mères royales recevaient même un culte installé par leur fils une fois leur mort arrivée. Quittons maintenant la sphère royale pour nous intéresser à celle de la population. La sagesse égyptienne, un type de littérature qui prend la forme de conseils de vie, montre bien que le destin valorisé pour une femme était de se marier et d'avoir des enfants. Au contraire, il se méfie largement de la femme dangereuse qui mène l'homme par le bout du nez. S'il n'y avait pas de mariage, la femme vivait dans la maison familiale, mais ne pouvait pas posséder de maison à elle seule. Elle avait néanmoins le droit de divorcer, enfin en tout cas cela ne lui était pas interdit, et cet acte n'impliquait aucune procédure légale ou religieuse. Une femme qui avait donné la vie et élevé ses enfants était respectée, et méritait une attention toute particulière lors de sa vieillesse, surtout de la part de son ou ses fils. Fun fact, les égyptologues ont retrouvé au moins 3 papyrus qui portent des recettes pour, je cite, « ne pas tomber enceinte » ou « provoquer l'arrêt de grossesse d'une femme ». 2/3 conseillent de mélanger de la fiente de crocodile avec de la pâte et d'imbiber le tout d'un ingrédient que le papyrus n'a malheureusement pas préservé. Je sais pas si ça marche, mais bon, entre ça ou la pilule, moi, je saurais pas quoi choisir. En termes d'éducation, les femmes n'avaient pas de différence avec les hommes. Si celles de la haute société pouvaient accéder au savoir, les autres n'avaient pas ce privilège. Pour ce qui est du travail, les femmes jouent un rôle actif dans l'agriculture et l'artisanat, qui les amène à vendre leur production au marché. Elles participent à la fabrication du pain et de la bière et ont des activités liées au filage et au tissage. Mais le rôle le plus important des femmes se situe au niveau artistique et religieux. D'abord, elles accèdent à des fonctions de prêtresses pour certaines déesses. Et ensuite, les tombes égyptiennes représentent les femmes en tant que musiciennes, chanteuses, pleureuses, toutes à un stade professionnel. On trouve aussi les khénères, liées à Hathor, ce groupe de femmes au corps tatoué dansé de façon acrobatique à la cour du roi, dans les temples ou encore pendant les accouchements ou rites funéraires, deux moments extrêmement importants de naissance dans un monde nouveau.
Vous écoutez bien les Antiquités orientales, un jeudi par mois à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM, à la découverte de l'histoire.
Je voudrais terminer cette première des Antiquités orientales en laissant un petit peu de côté la civilisation égyptienne pour m'intéresser plutôt à ce qu'on en a fait. Autrement dit, j'aimerais vous expliquer comment est-ce qu'un mec du fin fond de l'Europe comme moi en est arrivé à vous parler de l'Égypte antique et pourquoi vous écoutez cet épisode. Depuis le déchiffrement de Champollion, l'Égypte antique a fait l'objet d'une véritable égyptomanie de la part de l'Occident. Le 19e siècle voit la lancée de grandes expéditions d'exploration en Orient, y compris en Égypte. S'ouvre alors à l'Occident tout un champ d'histoire, de symboles et de représentations nouvelles qui le fascinent jusque dans les arts et l'architecture urbaine. Les découvertes ne sont donc pas prises pour ce qu'elles sont, mais plutôt pour ce qu'elles représentent aux yeux des Occidentaux. C'est ainsi que le 19e siècle représente les rois orientaux au milieu d'un harem de femmes nues, dans des palais à la grandeur et à la richesse, toujours plus démesurés. L'égyptomanie se poursuit au 20e siècle, sous l'impulsion de vecteurs différents. La découverte du tombeau de Toutankhamon par l'équipe de Howard Carter et la série de morts qui s'ensuit déchaîna les passions dans le monde entier. La fameuse histoire de la malédiction de Toutankhamon, qui serait responsable de l'hécatombe qui suivit la découverte du pharaon, n'est rien d'autre qu'une chimère, élevée et nourrie par les médias de l'époque, qui y voyaient là une occasion rêvée de faire du flouze. L'Égypte se retrouva aussi au cœur d'un combat politique afrocentriste, un courant de pensée qui s'insère dans la lutte pour les droits des personnes noires et qui veut placer l'Afrique à l'origine de toutes les civilisations. Dans les années 50, donc, les travaux de Cheikh Anta Diop, un anthropologue autoproclamé, veulent faire de l'Égypte la civilisation originelle, berceau d'à peu près tout, disposant d'une avance technologique, philosophique et artistique incomparable pour l'époque. Travaux qui furent depuis largement contestés, puis rejetés par de nombreux historiens. Le cinéma réussit à tirer parti du fantasme de l'Égypte pour mettre en scène des personnages qui résonnent profondément dans notre inconscient collectif. Je citerai ici le personnage de Cléopâtre, qui passe de femme hystérique et nymphomane dans le film de 1934 qui porte son nom, personnage fait par des hommes et pour des hommes, à femme de pouvoir, sexuellement libérée dans celui de 1963, puis à reine noire dans la série de 2023. Plutôt que d'être la véritable actrice de sa propre histoire dans chacun de ses domaines, qu'il soit cinématographique, littéraire, artistique ou journalistique, l'Égypte n'est que le théâtre où se déroulent les intrigues de ses metteurs en scène qui placent, au cœur de l'estrade, les combats et les représentations de leur temps. C'est ainsi que s'achève cet épisode des Antiquités orientales sur la civilisation égyptienne. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu. Un grand merci à l'équipe de Radio Campus Paris qui produit cette émission. Et n'hésitez pas aussi à suivre cette aventure sur Instagram, @les-antiquités-orientales, et sur Facebook, sur la page qui lui est dédiée. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode, et comme on dit en égyptien, Inejeher Ka.